Alors, cette date de la Réformation nous permet de nous poser la question de notre identité protestante, et je devrais dire de nos identités protestantes. Parce que dans notre assemblée ce matin, vous n'avez pas tous vécu ce protestantisme français. Vous n'êtes pas forcément tous nés en France. Vous n'avez pas reçu d'éducation chrétienne dans notre pays. Et il serait un jour intéressant, c'est ce que je me suis dit en préparant cette prédication, de faire un tour d'horizon de tous les protestantismes multiples que vous avez connus. Que ce soit à Madagascar, au Cameroun, au Congo, au Kenya, au Togo, en Corée du Sud, même en Suisse, et peut-être que j'en oublie. Personnellement, c'est grâce à mon passage aux États-Unis pendant un an et aux Pays-Bas pendant deux ans que j'ai compris certaines particularités du protestantisme français. On sait bien, c'est en partant de chez soi qu'on apprend à découvrir qui nous sommes. Et l'écart de la manière de célébrer Dieu en Jésus-Christ et les conséquences sur les manières de vivre m'ont fait réfléchir à l'évolution de notre Église. Il faut quand même réaliser qu'en France, l'Église réformée s'est unie avec les luthériens seulement en 2013 pour devenir l'Église protestante unie de France. Cela a pris près de 5 siècles. En France, nous sommes héritiers de la réforme de Calvin, et cette réforme française est arrivée dans le contexte politique de la monarchie. François Ier était le roi à l'époque. L'Allemagne, où a commencé la réforme avec Martin Luther, avait une décentralisation du pouvoir sur les régions, les Länder, qui a permis à la réforme de s'installer. Notre monarchie française était soutenue par un catholicisme très fort et n'a pas permis aux protestants de vivre leur foi paisiblement et durablement. Il y a quelqu'un qui m'a dit en ce moment, il y a la série Fortune de France qui raconte un peu tout ça. Il y a eu les livres, ils sont mis en série maintenant, donc on peut toujours le voir pour voir ce qui s'est passé à cette époque-là. En tout cas, nous sommes héritiers de cette longue histoire en France qui a forgé certains caractères. Les persécutions, les drames, les exils forcés au XVIe siècle et après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, ont donné l'habitude aux familles de rester discrètes. On n'attire pas l'attention, on ne se met pas en avant, et il est frappant de voir que même après des siècles, cela se voit encore dans les familles. Cette semaine, je suis allée célébrer un enterrement à Bourg-la-Reine. C'était un vieux monsieur protestant, et en discutant avec ses enfants, j'ai pu mettre à jour les caractéristiques que l'on retrouve très souvent. La sobriété dans les dépenses, la rigueur, la pudeur de parler de soi. Alors, ce souvenir de la réforme est aussi l'occasion de faire le point sur notre Église et sur sa place dans la société. J'ai souvent l'habitude de dire que le protestantisme s'est construit sur une liberté de conscience. Alors, ce n'est pas tout à fait juste de s'arrêter là, parce que quand Luther a déclaré ne pas pouvoir agir contre sa propre conscience, il a précisé que sa conscience était captive des paroles de Dieu. La liberté n'est pas là juste pour nous faire plaisir ou donner libre cours à nos envies. Elle est donnée pour nous encourager à redécouvrir la volonté de Dieu à travers les textes bibliques, et notamment la liberté de relation par le Christ, comme nous l'avons entendu dans la lettre aux Éphésiens. En Christ, nous avons donc par la foi en lui la liberté de nous approcher en toute confiance. Ce n'est plus la crainte de Dieu que nous prêchons, mais un Dieu d'amour. Et je suis frappée de l'écart entre la bonne nouvelle que nous annonçons dans nos temples, celle de la libération que Dieu vient nous apporter en Jésus-Christ, libération de la peur, de la mort, du désespoir, de la culpabilité, et l'image que la société nous renvoie. L'image d'une religion rigide, parfois une secte, où les gens ont peur d'être mis dans des cases s'ils venaient chez nous. Alors bien sûr, comme la confession protestante est minoritaire, elle est très peu connue. Nous avons eu les résultats de l'enquête à laquelle on vous avait demandé de participer en juin. Et il y a eu une enquête parallèle auprès de la population française et pas du tout de nos églises. 18% des gens disent connaître le protestantisme. Il y a donc 82% de personnes qui ne le connaissent pas. Et puis encore à l'occasion de l'enterrement que j'ai fait cette semaine, une personne m'a demandé pourquoi on ne croyait pas en la Vierge Marie, les choses un peu classiques, et puis si la communion existait chez nous. Alors, on répète, mais c'est vrai que notre Église est mise quand même dans le même sac que la confession catholique qui a fait un peu trop parler d'elle dans les médias ces dernières années. Et c'est vrai qu'en règle générale, je suis frappée de l'écart entre nos manières de croire et Jésus, ce que Jésus est venu nous apporter. Lui, en fait, qui ne voulait que réformer sa religion juive. Lui qui ne venait que parler et vivre l'amour de Dieu. Lui qui est venu nous libérer de nos enfermements et de nous apporter le pardon. Mais les hommes ont besoin d'avoir du pouvoir. Et la religion a été malheureusement une manière de tenir les populations sous leur pouvoir. Les protestants aussi, dans certains pays, n'ont pas évité cet écueil. C'est vrai que le fait d'être minoritaire, on a moins ce problème-là en France. Les hommes entretiennent les traditions, même si elles auraient la nécessité d'être transformées. Et nous avons entendu dans Matthieu, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Cela fait écho au message de la semaine dernière chez Marc. Jésus est sévère envers les responsables religieux. Et c'est d'ailleurs contre eux qu'il se met le plus souvent en colère. Jésus ne donne pas de règles pour nous dire comment adorer Dieu, mais il dénonce cette envie d'être considéré, d'être à la première place, alors que le baptême nous place tous de manière égale devant Dieu. Et cela, Martin Luther le rappellera. Le protestantisme a mis quand même du temps, par exemple, pour autoriser les femmes à devenir pasteurs. Il a fallu beaucoup de débats. L'autorisation date du synode de 1965. Pour notre Église réformée, qui avait la devise « Église réformée, toujours à réformer ». En effet, les synodes ont pris en compte en fait l'évolution de la société pour savoir à quel moment les communautés pourraient accepter de reconnaître l'autorité d'une femme, pasteur. En tout cas, grâce à la liberté de s'exprimer, d'échanger des arguments, de faire avancer les idées, notre Église peut se réformer. Alors, dès le début, il y a eu des débats, des discussions, des argumentations pour essayer de mettre des mots sur la foi nouvelle. Pour les protestants, le sens des mots est très important. Ceux qui viennent au synode, ceux qui ont eu la chance d'être délégués au synode, s'en rendent compte parce que des fois on pinaille vraiment sur un mot. Mais c'est en redécouvrant le sens du texte biblique que Martin Luther a fait une brèche dans la foi catholique. C'est en le redécouvrant notamment grâce à la traduction nouvelle faite à partir des textes hébreux et grecs. Et c'est aussi pour cela que les luthériens et les réformés ont mis tellement de temps à se retrouver. La compréhension de la Sainte Cène était particulière à chacune des dénominations, précise, et chacun tenait à sa définition. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, les églises protestantes en Europe ont eu à cœur de vivre la réconciliation et de la travailler, la réconciliation. Face au drame de l'extermination des Juifs, de la guerre qui érigeait en ennemi des pays voisins, il fallait retisser des liens. Et les protestants en ont été capables. Dialoguer ensemble pour retrouver où est l'essentiel de l'Évangile. Et ça a abouti en 1973 à une déclaration commune qui a été la source de notre Union en 2013. C'est souvent quand il y a des drames ou des contraintes extérieures qu'on désire converger vers le même chemin, vers la lumière du Christ. Quand nous sommes, avec mon mari, quand nous sommes allés en Mauritanie en 2005, nous avons été à un culte autorisé pour les étrangers dans ce pays qui est très musulman. Et là, eh bien, j'ai découvert que toutes les sensibilités protestantes étaient représentées. Elles réussissaient à s'accorder sur une manière de célébrer où chacun pouvait se retrouver. Alors en France, nous sommes en paix pour célébrer librement notre culte. Mais ce n'est pas une raison pour s'endormir. Si 82% de personnes ne connaissent pas le protestantisme, que faisons-nous de notre rôle de témoin ? Alors ce n'est pas le protestantisme que nous allons proclamer, mais notre manière protestante de dire la libération apportée par Jésus-Christ et de la vivre. Il n'est pas forcément question de parler ouvertement de Dieu ou de Jésus, mais de résister à tout ce qui n'est pas de l'Évangile. Être attentif aux mots, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'aux mots insultants qu'on peut reprendre. Un mot n'est jamais anodin, et ça c'est à nous de le dire. Nous pouvons aussi laisser parler notre espérance, qui lutte contre ce qui nie l'être humain. Parfois rester là, sans parole, à côté de l'ami qui vit des moments difficiles. Argumenter sur la nécessité d'ouvrir nos portes à ceux qui souffrent de l'injustice et de la guerre dans leur pays. Accepter de débattre avec des personnes qui ont des avis différents des nôtres. Ne pas tomber dans la morale qui enferme, etc. Combien de fois des personnes m'ont dit que la bienveillance est une qualité rare. L'écoute est une attention appréciée. L'ouverture les aide à se sentir bien. Oui, je pense que nous pouvons nous entraîner à témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ en la vivant ainsi. Alors aujourd'hui, quand vous êtes arrivés au temple, vous avez peut-être remarqué une nouveauté. Est-ce que quelqu'un ne l'a pas vue ? Qui n'a pas vu la nouveauté ? Eh bien, quand vous ressortirez, vous pourrez... Ah oui, alors ceux qui arrivent en voiture, bien sûr, ils ne peuvent pas voir, mais ceux qui... Vous pourrez aller admirer nos nouvelles enseignes. En fait, on vient de faire poser cette semaine la nouvelle enseigne Église protestante unie sur la façade. Et puis, sur les deux côtés, eh bien, on a une enseigne de chaque côté où il y a écrit « Temple protestant ». Un peu de visibilité, même si peut-être ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. J'espère en tout cas que ça attirera la curiosité des passants. Nathalie, qui habite à côté, m'a dit que ses voisins avaient déjà remarqué. Alors on s'en réjouit, et puis peut-être que ça permettra à des personnes qui cherchent une église, eh bien, de voir qu'ici, nous sommes une église. Oui, soyons reconnaissants d'être dans cette église qui nous permet de proclamer librement la parole, d'être des chrétiens peut-être accueillants et bienveillants. Ayons envie, en tout cas, de partager notre joie de croire en un Dieu d'amour. Amen.